la Banque Van Breda, vous méritez plus de temps. Plus de temps libre pour écouter le brief pendant que nous nous chargeons activement de votre liberté financière. Banque Van Breda.
Le brief spécial.
Bonjour à tous. Le 24 février 2022 débute une opération militaire en Ukraine. Des soldats russes, parmi des milliers massés aux frontières, commencent à entrer par le nord, l'est et le sud du pays. Sont entendues les premières explosions à Kiev, Kharkiv, Odessa et Mariupol, prélude d'un long conflit meurtrier. L'Union européenne prend alors des sanctions dès le lendemain. En avril, le monde découvre horrifié le massacre de Boutcha. La suite ne sera qu'une succession d'attaques et de reconquêtes, avec en toile de fond la mobilisation de dizaines de milliards de dollars et d'euros pour soutenir l'Ukraine. Aujourd'hui, après l'inquiétude liée à l'éventuelle pénurie de certaines denrées alimentaires comme le blé, la flambée des prix de l'énergie, l'inflation qui nous touche et la hausse des taux d'intérêt, comment les entreprises se sont-elles réorganisées? Peut-on vivre avec une guerre qui s'éternise? Et peut-on parler d'une sorte de normalisation du conflit? Avec nous pour évoquer la situation, Nabil Jijakli, directeur général adjoint de Credendo, groupe d'assurance crédit qui dispose de succursales dans une quinzaine de pays, et Serge Quadbach, rédacteur en chef adjoint à l'Écho. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Je suis Guillaume Cordeau et vous écoutez le brief spécial « 2 ans de conflit, l'économie belge face à l'épreuve ukrainienne ».
Un dossier chaud, décodé par l'Écho.
Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose d'abord de rejoindre notre envoyé spécial en Ukraine, Vincent Joris. Il nous décrit des conditions de vie encore très précaires sur place.
Au quotidien, il y a toujours des difficultés par rapport aux alertes aériennes. Nous venons juste d'en avoir une. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, je suis allé voir un lieu qui a été frappé par un missile balistique. Le cratère était énorme. La population était terrorisée parce qu'il y a eu des destructions des maisons à cause du souffle de l'explosion. Donc, on ressent toujours la guerre. Et puis, il y a aussi le nombre de morts sur le front qui touche beaucoup la population ici. Ce sont des camions réfrigérés qui reviennent du front avec des corps. Et il y a un certain fatalisme qui s'installe après 2 ans de guerre. C'est très, très lourd à porter.
Mais alors, comment se porte l'économie ?
En fait, ici à Kiev, les activités continuent pratiquement comme avant. Et dans les campagnes, les activités agricoles continuent à tourner. C'était une très bonne année 2023 et cette année devrait être très bonne aussi. Bien sûr, il y a des problèmes au niveau de la consommation, mais l'activité économique fonctionne. En 2023, on était à une croissance de plus de 5% par rapport à l'année précédente. Et aujourd'hui, je viens de m'entretenir avec un expert du Centre d'études économiques de Kiev. On irait vers une croissance légèrement supérieure à 0% pour l'année 2024. Donc, tant que l'Ukraine recevra de l'aide de l'Union européenne et des États-Unis, l'activité économique pourra se maintenir.
Voilà l'analyse de Vincent Joris, notre envoyé spécial en Ukraine. Ici, en Belgique, nous sommes loin du bruit des bombes et des privations, mais l'impact de la guerre a été dur pour nos entreprises. D'abord, certaines PME ont eu du mal à absorber les coûts liés à la hausse des prix de l'énergie, mais il y a eu aussi l'inflation, l'augmentation des salaires avec l'indexation automatique en Belgique. Nabil Jijakli, est-ce que cette crise a fragilisé durablement nos entreprises ? Est-ce qu'elles vont s'en remettre et dans quel état ?
Je pense que les entreprises belges ont été relativement résilientes. Dans nos enquêtes sur notamment le baromètre à l'exportation, on s'est rendu compte qu'elles ont, un, diversifié leurs sources d'approvisionnement, deux, pris toute une série de mesures d'économie, notamment sur le plan énergétique, et trois, ça on commence à le voir, à l'exportation, les carnets de commandes se remplissent à nouveau. Donc, sans bercer dans un optimisme béat, je dirais que les entreprises ont monté une certaine résilience, en tout cas les entreprises belges, oui.
Aujourd'hui, des secteurs sont-ils plus fragiles que d'autres au départ de la crise en Ukraine ? On a parlé de l'horeca, de l'agroalimentaire aussi, de la distribution.
Dans un premier temps, le problème a été un problème lié à la crise énergétique. Et donc, les secteurs qui sont consommateurs d'énergie ont été confrontés à des hausses de prix importantes. D'autre part, l'Ukraine, il ne faut pas surestimer l'importance des relations économiques de l'Europe avec l'Ukraine. En ce qui concerne la Belgique, l'Ukraine était notre 50e destination d'exportation, et à peu près la même chose en termes d'importation. Une balance commerciale en notre faveur, mais c'était à peu près 600 millions. Et je parle ici de juste en 2021, avant l'invasion et au début de la sortie du Covid. Et donc, une balance commerciale où nous exportons pour à peu près 600 millions, nous importons pour 400 millions. Donc oui, c'est un problème pour une série d'entreprises, d'entrepreneurs, mais globalement, c'est assez limité.
Aujourd'hui, il est plus difficile de déployer de nouveaux filets de sécurité pour nos entreprises, pour les citoyens. Les mesures de soutien ont permis de souffler un peu, mais elles ont endetté les États. Serge Quadbach, la Belgique fait partie des mauvais élèves. Un retour de bâton peut-il être attendu d'ici la fin de l'année?
Alors c'est clair, Nabil Jakli l'a très bien dit, on a donné beaucoup d'aide pour la population et pour les entreprises durant la pandémie. Et puis après, on a eu la crise énergétique. Alors l'État n'a plus beaucoup de marge de manœuvre pour aider son économie. La Belgique a, on peut dire, vécu quand même fort à crédit. Et en plus, on est dans un contexte où l'indexation automatique des salaires a solidement écorné la compétitivité de nos entreprises par rapport à l'étranger. Alors, on voit ici l'écart salarial avec les pays voisins commence à se résorber légèrement. Il devrait se résorber pour 2024. C'est ce que dit en tout cas le Conseil central de l'économie. Mais la situation est quand même assez tendue pour nos entreprises, oui.
Le fait que les entreprises aient été obligées de se réinventer, parfois se restructurer ou bien repenser leur mode de consommation d'énergie, cela ne participe-t-il pas à un élan salvateur pour l'avenir de l'économie, pour aller vers un modèle plus durable?
Alors, pour certaines entreprises, encore une fois, oui, pour d'autres, non. Alors, on pourrait croire que les conséquences de la guerre s'estompent. On voit les prix de l'énergie qui sont en baisse, on voit l'inflation qui est en retrait, on voit d'ailleurs l'anticipation des taux au niveau de la BCE. Et pourtant, la question énergétique est toujours très prégnante pour certaines entreprises. Pour l'électricité, par exemple, nos entreprises payent toujours plus qu'en France, par exemple. Et si on compare avec les États-Unis, l'Europe est vraiment très, très pénalisée sur ce volet-là, et est venu se greffer à cela la concurrence des aides publiques. Alors, on a vu aux États-Unis, il y avait l'IRA, l'Inflation Reduction Act, qui a fortement concurrencé nos entreprises. La Commission a autorisé les États à aider ces entreprises et à créer, du coup, une concurrence fiscale intra-européenne où l'Allemagne et la France se taillent la part du lion. Ce sont les pays les plus endettés qui ont plus de problèmes, dont la Belgique, évidemment. Les grandes entreprises comme Solvay, devenue Syensqo, comme Umicore, comme Agristo, en profitent déjà maintenant, ça, il n'y a pas de problème pour elles. Mais pour celles qui sont plus locales, plus petites, elles ne peuvent compter que sur leur propre capacité et pour elles, c'est plus difficile.
Je m'adresse à vous deux. Les entreprises ont-elles pu renégocier leurs contrats d'énergie? Certaines ont-elles vraiment entamé une énorme réflexion sur la transition énergétique à la suite de la crise en Ukraine?
Les entreprises doivent se préparer à la transition énergétique. Effectivement, ça demande des investissements. Je crois que dans ce cadre-là, les services publics, ou plutôt les autorités publiques, ont deux rôles. Le premier rôle, c'est de mettre une réglementation stable, d'indiquer le chemin. Et le deuxième, c'est d'éventuellement, le cas échéant, comme aux États-Unis, prendre des incitants. Au niveau de mon institution, chez Credendo, nous avons lancé un Credendo Green Package. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le but est de fournir pour des transactions qui sont durables, sur le plan social ou sur le plan environnemental. Les deux sont importants, de fournir des avantages, des incitants supplémentaires. Et donc, j'ajouterai un troisième point, c'est que si le changement climatique est un défi, c'est aussi des opportunités. Vous avez toute une série d'entreprises en Belgique, nous avons des champions. Nous avons des champions dans la construction d'éoliens offshore, d'éoliens onshore. Nous avons un champion en Wallonie dans l'hydrogène qui se positionne. Nous avons toute une série d'entreprises qui sont actives dans le recyclage. Et ce que je veux dire, c'est que la transition climatique, pour la réussir, ce n'est pas une solution, mais c'est un mix de solutions qui passe par toute une série de choses, la recherche et le développement, les investissements, de nouveaux marchés, de nouvelles opportunités dans lesquelles nous pouvons prendre notre place. Je dirais même au-delà que l'Europe a une chance de revenir au centre du jeu par rapport à des industries comme le GAFA où nous avons été absents. Pour cela, effectivement, c'est un défi. Il faut une réglementation claire, il faut des incitants.
Parlons parlons à présent du secteur de la défense. L'Europe restaure son industrie militaire pour fournir des armes à Kiev, mais aussi renforcer ses propres capacités. C'est une nécessité stratégique, Nabil Jijakli, mais aussi un axe de développement économique, la défense.
La défense, les Américains l'ont bien compris, hein, c'est à la fois de l'investissement dans la recherche et le développement. Une série de choses que l'on fait dans la défense ont une utilisation dans des secteurs de pointe qui sont autres que la défense. Mais plus généralement, je pense que l'Europe a pris conscience avec la crise du Covid, peut-être en commençant avec l'élection de Trump en 2016, puis la crise du Covid, et puis cette guerre à notre frontière finalement, qu'on devait se réapproprier notre destin. Ça passe par plusieurs choses. Ça passe par une réindustrialisation, pas aveugle, pas dans tous les secteurs, parce qu'on arrive de nouveau à la question des coûts. Ça passe par une autonomie plus grande pour une série d'approvisionnements en matières premières, et notamment les matières premières qu'on doit utiliser dans la transition énergétique, comme le cobalt, le nickel. Ça passe aussi par une politique étrangère qui s'appuie sur une défense. En Europe, nous avons de belles valeurs, des valeurs de démocratie. Nous voulons être les champions de la transition écologique. Nous avons aussi un certain bien-être, une qualité de vie importante, notamment par la redistribution et par un certain état social. Et pour défendre ces valeurs-là, il n'y a rien à faire. Il faut du soft power, mais il faut à un moment donné avoir une musculation. Et cette musculation, elle passe par recréer une industrie de la défense. Je rappelle quand même que depuis la sortie de nos amis britanniques de l'Union européenne, il n'y a plus qu'une puissance militaire, ce sont les Français, et puis les Américains quand même.
John Cockerill, Mekar, la Fenerstal, Serge, ces entreprises de la défense profitent-elles de la crise en Ukraine ?
Oui, clairement. Hein, ces derniers mois, on a vu pas mal de contrats qui se signaient. Il y a Mekar, vous l'avez cité, c'est une filiale belge d'un groupe franco-allemand, KNDS, qui fabrique des obus d'artillerie, dont les fameux 155 mm qui sont très demandés par l'Ukraine. Donc là, il y a une opportunité pour cette entreprise. Opportunité entre guillemets, évidemment, on est quand même dans un contexte de guerre. Les Pays-Bas, ici, viennent de conclure avec la Fenerstal pour des mitrailleuses à destination également de l'Ukraine. John Cockerill, c'est un peu différent. Ils viennent d'acquérir le français Arcus, qui fabrique des blindés légers, qui sont fortement demandés, pas seulement en Ukraine, mais de manière mondiale. Alors, eux, John Cockerill, c'est surtout des spécialistes des tourelles. Alors, maintenant, ils peuvent intégrer leurs tourelles dans des blindés légers. Donc, c'est une belle opportunité aussi. Il y a aussi Eurenco, filiale d'un groupe français basé à Liège. Alors, ici, on parle de poudre et d'explosifs. Alors, tout ça veut dire qu'il y a des opportunités, effectivement, mais on n'est pas encore dans une économie de guerre, comme l'est la Russie, par exemple. Mais on voit quand même qu'il y a une dynamique qui a été créée. Et donc, les entreprises actives dans l'armement vont être vraiment sollicitées dans les prochains mois, prochaines années, c'est clair.
2 ans de guerre, cela n'empêche pas donc de penser à l'avenir. D'ailleurs, les autorités ukrainiennes multiplient les contacts pour envisager l'après. Nabil Jijakli, je me tourne à nouveau vers vous. Les milliards d'euros et de dollars mobilisés pour financer l'Ukraine et construire un rempart contre l'agression russe, cela suffit-il pour reprendre les transactions commerciales avec le pays ?
La première chose que je voudrais dire, c'est que les milliards que vous évoquez, pour l'instant, ils sont dépensés dans un but de défense. La deuxième chose, le pays est en guerre. Il y a des régions qui sont plus dangereuses que d'autres. Je pense notamment à toute la région du Donbass et qui est le long de la frontière russe. La Crimée, qui a été annexée par la Russie. Le nord vers la Biélorussie, ce sont quand même des zones qui sont des zones de conflit. Donc, je dois dire que dans un pays en guerre, vous parliez d'une économie qui fonctionne avec un PIB qui augmente. L'Ukraine, c'était avant l'invasion 100 milliards de PIB annuel. Donc, c'est relativement modeste. Deux, j'expliquais la place dans les exportations en Europe et en Belgique, c'était relativement aussi limité. Trois, vous avez des besoins spécifiques. L'armement, on l'a évoqué, mais aussi de la nourriture, des produits pharmaceutiques, de l'alimentaire, éventuellement des produits énergétiques, parce qu'il fait froid. Et donc là, vous pouvez reprendre une série de transactions commerciales de ce type-là. Par contre, parler de la reconstruction du pays, des infrastructures, des usines, des transports. Là, je pense que c'est beaucoup trop tôt. On évalue les montants. Il y a une conférence à Bruxelles au mois de novembre. On a parlé d'un montant de 400 milliards. Un moment ou un autre, ça devra se faire. Mais je pense que pour l'instant, le conflit est loin d'être achevé. Et donc, c'est très prématuré. Vous allez construire quelque chose qui risque de détruire immédiatement après.
Pour les entrepreneurs qui nous écoutent, quels sont les risques que vous couvrez aujourd'hui ?
Alors, nous avons repris, et nous ne sommes pas les seuls, plusieurs agences de crédit à l'exportation, les Allemands, les Polonais par exemple, ont réouvert leur politique. Dans notre jargon, réouvrir, ça veut dire qu'on couvre à nouveau. mais de manière à la fois prudente et modeste. Qu'avons-nous fait ? Au mois de décembre, nous avons accepté de couvrir des transactions qui vont jusqu'à un montant de 100 millions. Dans ces 100 millions, vous avez 75 millions pour des transactions à court terme, le commerce courant que j'évoquais, et 25 millions pour des projets à moyen ou long terme, c'est-à-dire dont l'échéance de réalisation et de paiement va au-delà de 2 ans. J'ajoute immédiatement que nous n'acceptons pas des transactions qui vont au-delà de 15 millions, qu'il doit y avoir un intérêt belge important. Et nous allons examiner la situation au cas par cas. Ça signifie quel est le débiteur, hein, quel est l'acheteur de l'entreprise belge, dans quelle région se situe la livraison ou la construction du projet. Ce sera au cas par cas. Je dois quand même mettre un bémol, c'est que depuis que nous avons réouvert, on a eu certes des demandes d'informations, mais pas encore des demandes de couverture réelles. Imaginez-vous une entreprise envoyer son personnel sur place. Je crois qu'il faut être très pragmatique à cet égard-là.
Sacha Schwedbach, ce conflit en Ukraine nous a-t-il appris à être plus flexible, à intégrer le risque qu'un pays ami ne le sera peut-être plus demain et repenser les relations commerciales au niveau mondial ?
Alors, il faut pas surréagir, il faut être prudent et il faut peut-être, en tout cas, diversifier ces chaînes d'approvisionnement, voire réindustrialiser quand c'est nécessaire. La vraie question, je crois, la plus grosse question qu'on a dans l'avenir, c'est la Chine. D'abord parce que l'Europe subit le dossier chinois plus qu'il n'en est l'acteur. On se focalise beaucoup sur les semi-conducteurs, mais en fait, bon, c'est des raisons évidentes, c'est là on parle de sécurité, mais que dire des matières premières, par exemple, la Chine investit énormément dans les matières premières, dans les pays africains, dans des pays sud-est asiatiques aussi. Tout ça soutenu par l'État, ce qui n'est pas le cas de nos entreprises occidentales. Et on voit combien cela est important pour notre vie quotidienne, nos smartphones, nos voitures électriques. Donc c'est vraiment est-ce qu'on peut continuer à compter sur la Chine ? Et donc il faut diversifier nos approvisionnements pour prévoir ce genre de scénario, voire amener donc certaines activités sur notre sol, et notamment des projets miniers. Or ça, c'est une question qui est encore forte à boucher, nous, en Europe.
Merci beaucoup, Serge Quadbag, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef adjoint à l'Écho. Et merci, Nabil Jijakli, d'avoir participé à cet épisode. Vous êtes directeur général adjoint de Credendo, groupe européen d'assurance crédit basé à Bruxelles. En moins d'une minute, que faut-il retenir de notre discussion ? Eh bien que c'est une occasion pour l'Europe de sortir par le haut. Elle a l'habitude d'avancer avec les crises, avec un projet de défense et un projet climatique. Que des opportunités existent et sont à saisir dans la transition environnementale et énergétique. Et qu'il faut sortir des schémas traditionnels et aller vers les marchés émergents pour chercher la croissance en profitant des incitants pour accélérer le changement dans les entreprises. Merci de nous avoir suivis. Très belle journée à tous. Et à bientôt.
À la Banque Van Breda, vous méritez plus d'équilibre. Plus d'équilibre financier. Plus d'équilibre financier pour vous et votre entreprise pour pouvoir vous concentrer sur votre équilibre vie professionnelle, vie privée. Vous méritez également plus de Banque Van Breda pour votre vie professionnelle et privée. Banque Van Breda, réservée aux entrepreneurs et aux professions libérales.